Brady.
Mon garçon est un génie,
avait l'habitude de dire Deborah Hartsfield à ses amis. À quoi elle ajoutait avec un sourire triomphant,
c'est pas de l'avantardise si c'est la vérité.
C'était avant qu'elle se mette sérieusement à boire, quand elle avait encore des amis. À l'époque, elle avait un autre fils, Frankie. Mais Frankie n'était pas un génie. Frankie avait des lésions cérébrales. Un soir, quand il avait 4 ans, il était tombé dans l'escalier du sous-sol et il était mort, le cou brisé. C'était du moins l'histoire que Deborah et Brady avaient racontée. La vérité était un peu différente, un peu plus complexe. Brady adorait inventer des trucs, et un jour, il inventerait quelque chose qui les rendrait tous les deux riches, qui les propulserait rue de la facilité. Deborah en était persuadée, et le lui disait souvent. Et Brady le croyait. Il arrivait tout juste à récolter des B et des C dans la plupart de ses cours, mais en informatique 1 et 2, c'était le roi des A. À la fin de ses années lycée, la maison des Hartsfield était équipée de toutes sortes de gadgets, certains hautement illégaux, comme les boîtes bleues via lesquelles Brady volait les chaînes câblées de Midwest Vision. Il avait un atelier dans le sous-sol où sa mère s'aventurait rarement. C'était là qu'il fabriquait ses inventions. Petit à petit, le doute s'était immiscé. Et le ressentiment, faux jumeau du doute. Ses créations avaient beau être inventives, elles ne rapportaient pas d'argent. Il y avait des types en Californie, Steve Jobs par exemple, qui se faisaient des couilles en or et changeaient le monde, rien qu'en bidouillant dans leur garage. Mais Brady ne semblait jamais leur arriver à la cheville. Son croquis pour le Rolla, par exemple. C'était un aspirateur informatisé prévu pour fonctionner tout seul. Il tournait sur un cadran et changeait de direction dès qu'il rencontrait un obstacle. Celui-là avait tout du gagnant. Jusqu'à ce que Brady aperçoive un aspirateur Roomba dans la vitrine d'un magasin d'électroménager Prout Prout de Lacemaker Lane. Quelqu'un l'avait coiffé au poteau. L'expression « un jour trop tard, moins $1 » lui vint à l'esprit. Il la refoula, mais parfois le soir, quand il n'arrivait pas à dormir ou qu'une de ses migraines le guettait, elle revenait. Pourtant, deux de ses inventions, et mineures qui plus est, avaient rendu possible la tuerie au City Center. C'étaient deux télécommandes trafiquées qu'il avait appelées Truc 1 et Truc 2. Truc 1 pouvait faire passer les feux de circulation du rouge au vert et vice-versa. Truc 2 était plus sophistiqué. Il pouvait intercepter et enregistrer les signaux de clé de voiture, permettant ainsi à Brady de déverrouiller les 10 véhicules une fois que leur propriétaire, qui ne se doutait de rien, était parti. Au début, il avait utilisé Truc 2 comme outil de cambriolage pour fouiller les voitures à la recherche d'argent et d'objets de valeur. Et puis, alors que l'idée de foncer avec une grosse voiture dans une foule de gens prenait vaguement forme dans son esprit, ainsi que le fantasme d'assassiner le président, ou peut-être une star de cinéma branchouille, il avait utilisé Truc 2 sur la Mercedes d'Olivia Trilone et découvert qu'elle gardait un double des clés dans la boîte à gants. Cette voiture-là, il n'y avait pas touché, gardant l'existence du double des clés dans un coin de sa tête pour plus tard. Peu de temps après, tel un message venant des puissances obscures qui régissent l'univers, il avait lu dans le journal qu'une foire au bouleau se tiendrait au City Center le 10 avril suivant. Des milliers de personnes étaient attendues. Après avoir commencé à travailler pour la cyberpatrouille de Discount Electronics et pu s'acheter des ordi d'occasion au rabais, Brady avait branché 7 ordinateurs portables, tous des sous-marques, dans son atelier du sous-sol. Il en utilisait rarement plus d'un à la fois, mais il aimait l'air que ça donnait à la pièce, comme un décor sorti d'un film de science-fiction ou d'un épisode de Star Trek. Il avait aussi installé un programme de commande vocale, et ce, des années avant qu'Apple fasse un tabac avec le logiciel Siri. Un jour trop tard, moins $1, ou dans ce cas précis, quelques millions. Qui, dans une situation pareille, n'aurait pas envie d'assassiner tout un tas de gens ? Il en avait eu seulement 8 au City Center, sans compter les blessés, certains très grièvement. Mais il aurait pu en avoir des milliers à ce concert de rock. Il serait rentré dans l'histoire à tout jamais. Mais avant qu'il ait pu appuyer sur le bouton qui aurait propulsé des billes d'acier en un éventail de morts, à réaction et en perpétuelle expansion, mutilant et décapitant des centaines d'adolescentes prépubères hystériques, sans compter leur mère en surpoids et surcomplaisante, quelqu'un lui avait éteint toutes ses lumières. Ce souvenir-là semblait définitivement oblitéré de sa mémoire. Mais pas besoin de se rappeler. Ça ne pouvait être qu'une seule personne, Kermit William Hodges. Comme Olivia Trelawney, Hodges était censé se suicider. C'était le plan. Mais il s'était arrangé pour éviter et le suicide et les explosifs que Brady avait planqués dans sa voiture. Le vieil officier à la retraite, le vieux Offrette, s'était pointé au concert et avait contrecarré ses plans quelques secondes seulement avant que Brady ait pu atteindre l'immortalité. La coïncidence est une garce rusée. Et il se trouve que Brady a été transporté au Kinner Memorial à bord de l'unité 23 de la caserne 3. Rob Mortin n'était pas présent ce jour-là. À l'époque, il était en voyage en Afghanistan, tout frais payé par le gouvernement américain. Mais Jason Rapsis était le médecin urgentiste à bord, essayant de maintenir Brady en vie alors que l'unité 23 fonçait vers l'hôpital. S'il avait dû parier sur ses chances de survie, Rapsis aurait dit aucune. Le jeune homme convulsait violemment. Sa fréquence cardiaque était de 175. Sa tension artérielle montait et chutait tour à tour. Cependant, il faisait toujours partie du monde des vivants lorsque l'unité 23 arriva à l'hôpital. Là-bas, il fut examiné par le docteur Emory Winston, un vieux de la vieille du service rafistolage express de l'hôpital, que certains vétérans appelaient le club machette-gâchette du samedi soir. Winston alpaga un étudiant en médecine traînant dans les parages et occupé à draguer les infirmières. Il l'invita à procéder à un examen expéditif du nouveau patient. L'étudiant observa une baisse des réflexes, une pupille gauche dilatée et fixe, et un signe de Babinski positif à droite.
« Ce qui veut dire ?»« Que ce gars-là souffre d'une lésion cérébrale irréparable, » dit l'étudiant.
Que c'est plus qu'un légume.
Très bien, on pourra peut-être faire de vous un médecin. Pronostic ?
Mort d'ici à demain matin, dit l'étudiant.
Vous avez probablement raison, dit Winston. J'espère pour lui, car il ne se remettra jamais de ça. Mais nous allons quand même lui faire passer un scanner.
Pourquoi ?
Parce que c'est le protocole, fiston. Et parce que je suis curieux de voir l'étendue des dégâts tant qu'il est encore en vie.
Il était encore en vie 7 heures plus tard, lorsque le docteur Anu Singh, habilement assisté du docteur Félix Babineau, procéda à une craniectomie pour évacuer l'important caillot de sang qui compressait le cerveau de Brady, asphyxiant des cellules divinement spécialisées par millions et aggravant la situation minute après minute. Quand l'opération prit fin, Babineau se tourna vers Singh et lui tendit une main gantée mouchetée de sang.
« C'était spectaculaire, » dit-il.
Singh serra la main de Babineau, mais accompagna son geste d'un sourire dédaigneux.
« De la routine, » dit-il. « J'en ai pratiqué des milliers, enfin, quelques centaines. Ce qui est spectaculaire, c'est la constitution de ce patient. Je n'arrive pas à croire qu'il ait survécu à l'opération. L'état de son pauvre cerveau, »
Singh secoua la tête.
« Aïe, aïe, aïe. »
« Vous savez ce qu'il s'apprêtait à faire, je suppose. »
« Oui, on m'a informé. » Terrorisme à grande échelle. Il vivra peut-être un temps, mais il ne sera jamais jugé pour son crime, et ce ne sera pas une grande perte pour le monde quand il partira. »
C'est avec cette pensée à l'esprit que le docteur Babineau commença à administrer à Brady, pas loin de l'état de mort cérébrale, un médicament expérimental qu'il baptisa cérébelline. Quoique seulement dans sa tête. Techniquement, c'était juste un numéro à 6 chiffres. Et ce, en plus des protocoles établis d'oxygénation accrue, de diurétiques, anticonvulsifs et stéroïdes. Le médicament expérimental 649558 s'était révélé prometteur sur les animaux. Mais en vertu d'une jungle de réglementations bureaucratiques, l'expérimentation sur les êtres humains ne serait pas tenté avant des années. Il avait été développé par un laboratoire de neurologie bolivien, ce qui n'arrangeait rien à l'affaire. Lorsque les essais cliniques sur les humains seraient enfin autorisés, s'il l'était un jour, Babino, pour peu que sa femme ait gain de cause, vivrait dans un lotissement sécurisé de Floride, à s'y ennuyer, à mourir. Voilà qui était pour lui l'occasion rêvée d'obtenir des résultats tant qu'il était encore activement impliqué dans la recherche en neurologie. Et s'il en obtenait, il n'était pas impossible d'imaginer un prix Nobel de médecine quelque part à l'arrivée. Il n'y avait aucun risque, tant qu'il gardait ses résultats pour lui, jusqu'à ce que les essais cliniques soient permis. De toute façon, Hartsfield était un meurtrier dégénéré qui ne se réveillerait jamais. Et si par miracle il se réveillait, sa conscience serait au mieux aussi brumeuse que celle des patients à un stade avancé de la maladie d'Alzheimer. Et même ça serait une avancée stupéfiante. « Vous aidez peut-être quelqu'un au bout de la ligne, monsieur Hartsfield, » disait-il à son patient comateux. « Une cuillerée de bien au lieu d'une pelletée de mal. » Et si vous deviez subir des effets secondaires néfastes, genre électroencéphalogramme définitivement plat, pas que vous en soyez bien loin, ou même mourir, au lieu de manifester un tant soit peu d'amélioration de vos fonctions cérébrales, pas une grande perte, ni pour vous, ni pour votre famille, étant donné que vous n'en avez pas. Et certainement pas pour le monde. Le monde serait ravi de vous voir partir. Babino ouvrit un dossier intitulé Hartsfield et ses cérébellines sur son ordinateur. En tout, il y avait 9 essais, s'étendant sur une période de 14 mois entre 2010 et 2011. Babino n'avait constaté aucun changement. Il aurait aussi bien pu donner de l'eau distillée à son cobaye humain. Il abandonna. Le cobaye humain en question passa 15 mois dans le noir, un esprit à l'état embryonnaire qui, au cours du 16e mois, se souvint de son nom. Il s'appelait Brady Wilson Hartsfield. Il n'y eut rien d'autre au début. Pas de passé, pas de présent, pas de lui, en dehors des 6 syllabes de son nom. Et puis, peu avant qu'il n'abandonne et se laisse repartir à la dérive, un autre mot refit surface. C'était le mot « contrôle ». Ce mot avait eu de l'importance à une époque, mais il n'arrivait pas à se rappeler laquelle. Dans sa chambre d'hôpital où il était allongé dans son lit, ses lèvres hydratées à la glycérine remuèrent et prononcèrent ce mot tout haut. Il était seul. C'était encore 3 semaines avant qu'une infirmière le voie ouvrir les yeux et réclamer sa mère. « Con, troll !» Et les lumières s'allumèrent. Exactement comme dans sa salle d'ordinateur à la Star Trek, quand il les activait par commande vocale du haut de l'escalier du sous-sol. C'était là qu'il se trouvait, dans son sous-sol de Elm Street, inchangé depuis le jour où il l'avait quitté pour la dernière fois. Il y avait un autre mot qui démarrait une autre fonction. Et maintenant qu'il était là, il s'en souvint également, parce que c'était un bon mot. Chaos. Dans son esprit, il le clama, tel Moïse sur le mont Sinaï. Dans son lit d'hôpital, ce fut un coassement chuchoté. Mais ça fonctionna, car sa rangée d'ordinateurs portables se réveilla. Sur chacun des écrans apparurent les nombres 20, puis 19, puis 18. Qu'est-ce que c'est que ça? Pour l'amour du ciel, qu'est-ce que c'est? Durant un instant de panique, il ne put se souvenir. Tout ce qu'il savait, c'est que si le compte à rebours qu'il voyait défiler sur les 7 écrans atteignait 0, les ordinateurs planteraient. Ils perdraient leur contenu, 7 salles. Et le mince filet de conscience qu'il avait réussi à retrouver. Il serait enterré vivant dans les ténèbres de sa propre tête. C'était ça le mot exact. Ténèbres. Il le cria de toutes ses forces, du moins intérieurement. Au dehors, c'était ce même coassement murmuré par des cordes vocales restées trop longtemps inutilisées. Son pouls, sa respiration, sa tension, tout avait commencé à s'accélérer. L'infirmière chef, Becky Elmington, ne tarderait pas à s'en apercevoir et venir vérifier, se dépêchant, mais sans courir tout à fait. Dans l'atelier de Brady, le compte à rebours s'arrêta à 14, et une photo s'ouvrit sur chaque écran. Il fut un temps où ces ordinateurs, maintenant stockés dans la salle des pièces à conviction caverneuses d'un commissariat de police et étiquetés de A à G, démarraient en affichant des photos d'un film intitulé « La Horde sauvage ». Là, cependant, c'était des photos de sa vie que Brady voyait. Sur l'écran 1, il y avait son frère Frankie, qui s'était étranglé avec un morceau de pomme et avait lui aussi souffert de lésions cérébrales, et qui plus tard était tombé dans l'escalier du sous-sol, aidé du pied de son grand frère. Sur l'écran 2, il y avait Déborah elle-même. Elle était vêtue d'une robe moulante blanche, dont Brady se souvint aussitôt. « Elle m'appelait mon lapin, » pensa-t-il. Et quand elle m'embrassait, sa bouche était toujours un peu humide et ça me filait la trique. Quand j'étais petit, elle appelait ça le bâton. Des fois, quand je prenais le bain, elle me le frottait avec un gant de toilette mouillé et chaud et me demandait si c'était bon. Sur l'écran 3, il y avait truc 1 et truc 2, des inventions qui avaient véritablement marché. Sur l'écran 4, il y avait la grosse Mercedes grise de Madame Trilonnet, capot enfoncé et calandre dégoulinante de sang. Sur l'écran 5, il y avait un fauteuil roulant. Pendant un instant, la pertinence de cette image lui échappa, et puis ça fit tilt. C'était comme ça qu'il était entré dans l'auditorium Mingo, le soir du concert des Run Here. Personne ne soupçonnait un pauvre handicapé en fauteuil roulant. Sur l'écran 6, il y avait un beau jeune homme souriant. Brady ne se rappela pas son nom, du moins sur le moment, mais il savait qui était ce jeune homme, le nègre tondeur de pelouse du vieux Offret. Et sur l'écran 7, il y avait Hodges lui-même, un borsalino incliné avec style sur un œil et le sourire aux lèvres. « Je t'ai eu, Brady, » disait ce sourire. « Je t'ai fracassé le crâne avec mon casse-tête et te voilà maintenant allongé dans un lit d'hôpital. Et quand te lèveras-tu pour marcher ?»« Jamais, je dirais. » Enfoiré de Hodges, qui avait tout gâché.